Non, c'est un vrai plaisir d'être là, une vraie joie. C'est vrai que depuis une trentaine d'années, lorsque je venais vous souhaiter, vous apporter les salutations de vos frères et sœurs de Lunel. Nous y étions encore il y a 15 jours. N'oublions pas Lunel. Prions pour ce petit troupeau qui est là-bas. Prions parce que ils rendent un beau témoignage dans cette ville. Voilà. Si vous voulez, ce matin, je voudrais vous parler, si j'avais un titre à donner à ma prédication, ce serait « Apprenez de moi », pas de moi, mais du Seigneur, « Apprenez de moi la compassion ». Lors de ses dernières prédications, Pierre a entamé l'exigeant commentaire du Sermon sur la montagne et des Béatitudes en particulier. Et il nous a averti que si nous y prêtions un peu attention, ces béatitudes peuvent nous déstabiliser. Vous vous souvenez de tout ce qu'il a dit, je ne vais pas reprendre toutes ces excellentes choses. Mais j'ai bien retenu, moi, quant à moi, parce que j'ai une petite tête, j'ai bien retenu une chose, c'est que ces béatitudes sont à la fois un portrait de notre maître et l'idéal des disciples appelés à suivre ce maître. Les disciples, et nous aussi donc, si nous voulons le suivre, nous avons besoin d'apprendre de lui. Nous avons besoin d'apprendre de lui. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Et il y a un trait particulier de notre maître, de ce portrait de notre maître, que j'aimerais souligner ce matin particulièrement, c'est sa compassion, sa miséricorde. Nous avons lu dans le psaume que tu as lu ce matin que le Père aussi, Dieu, est un Dieu compatissant. Et j'étais reconnaissant de ça. J'ai dit, tiens, le Saint-Esprit travaille aussi dans l'église de Nîmes, pas simplement à Lunel. Donc nous avons à apprendre de lui la compassion. Lisons un texte que nous trouvons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 11, nous lirons quelques versets jusqu'au chapitre 12, 11-28. Avant, je ne soulevais pas ma Bible comme ça, je voyais mieux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. Pardon. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. En ce temps-là, vivait dans un village de Galilée un pauvre homme qui avait la main complètement sèche, paralysée. On aurait dit un fruit sec au bout d'une branche, toute pourrie. Nous pouvons nous imaginer quelle devait être la situation de cet homme, surtout à cette époque-là, lorsqu'on était privé de sa main. Nous pouvons imaginer sa misère, sa souffrance, ses souffrances. Il n'a pas de ressources. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Toutefois, d'après le texte, je ne m'invente pas là, d'après le texte, nous voyons que notre homme est pieux puisque nous le trouvons à la synagogue. Et ce jour-là, donc comme à son habitude, il est là. Et voici justement la porte de la synagogue qui s'ouvre et un groupe d'hommes rentre. Parmi ces hommes, il reconnaît Jésus. Il a entendu parler de Jésus, bien entendu. Jésus est connu par tout le monde à cette époque-là. Il y a avec lui des personnages importants. Il y a ses disciples aussi. Il sait que Jésus est rempli de compassion. Il sait qu'il est bon, qu'il est attentif aux peines des miséreux. Il a fait une multitude de miracles. Il a fait beaucoup de guérisons aussi. Et il a guéri des gens qui étaient dans un cas désespéré comme le sien. Et là, il se met, lui, à espérer maintenant. Est-ce que Jésus va le voir ? Est-ce qu'il va pouvoir le guérir, lui aussi ? Son cœur tape très fort dans la poitrine. Il n'ose pas parler. Il n'a rien du tout. Il n'ose pas appeler Jésus. Qu'est-il, lui, pour parler à tout ce groupe d'hommes importants ? Il y a tous ces docteurs qui sont là en train de... ces docteurs de la loi qui sont là en train de discuter avec Jésus. Pourtant, voilà qu'au bout d'un moment, il y en a un qui se tourne vers lui. Ils sont en train de parler de lui à Jésus, mais ils sont braves, ils sont gentils, ces hommes. Ils font attention à lui, pauvre misérable. Combien ils sont bons de s'intéresser à lui. Mais l'un d'eux, le montrant du doigt, pose une question à Jésus. La question fatale, la question immanquable. A-t-on le droit de guérir le jour du sabbat ? Et là, notre pauvre paralysé est atterré. Ses illusions s'envolent aussi vite qu'elles étaient venues. Il sait, lui, qu'il n'est pas permis de faire un miracle le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne peut rien faire. On ne peut même pas faire à manger. Et Jésus ne va pas violer le jour du sabbat pour le guérir. Mais Jésus répond. Jésus répond à ces hommes. Il répond à leurs questions en leur posant une autre question. J'ai choisi la réponse de Marc. Dans Marc 3, Il leur pose la question, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou du mal ? Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien et du mal ? Et là, les hommes sont un peu... Et maintenant, c'est plus aux pharisiens que parle Jésus. Jésus s'adresse à notre homme. Oui, c'est bien à lui qu'il parle. Et notre homme entend, il entend quelque chose. Et tend ta main. Oui, c'est bien à moi qu'il parle. C'est bien à moi qu'il s'adresse. Il me demande d'étendre ma main. Mais comment je ne peux pas ? Je ne peux. Mais si je peux ? Mais si je peux ? C'est extraordinaire. Je remue mes doigts. Je suis guéri. Dans ce récit que j'ai un peu allongé, vous m'en excuserez, nous voyons encore une fois Jésus se tourner vers les plus pauvres, vers les plus déshérités, et faire preuve à leur égard d'une compassion et d'une miséricorde sans égale. Il ne craint pas pour cela de braver les interdits instaurés par les hommes. Il ne craint pas de braver les interdits instaurés par les hommes. Alors ce matin, je voudrais que nous le contemplions avec les yeux, avec le cœur de cet homme. Apprenons de lui cette belle leçon d'amour, cette belle leçon de compassion qui renverse tous les interdits légalistes. Contemplons-le pour l'adorer. Oui, nous l'avons fait au début de notre culte. Mais contemplons-le aussi pour apprendre de lui. Pour apprendre de lui. Dans toutes ces circonstances et dans bien d'autres encore, nous pouvons mesurer combien notre Maître est sensible, combien il est touché par la souffrance des hommes. Il est, lui, le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur de l'univers. Il tient toutes choses dans sa main. Et il est là, maintenant, devant cet homme, se révélant comme un Dieu sensible, touché par la misère, touché par la souffrance des hommes. Il est là pour dire aux hommes sa solidarité avec eux. Il est là pour souffrir avec eux. Il est là pour souffrir avec nous. Tel est le sens de la compassion et de la miséricorde du Christ. Conformément aux prophéties et donc à la volonté du Père, il n'est pas venu pour éteindre le flambeau qui fume encore, la lampe qui fume encore, ou pour briser le roseau qui ploie sous le fardeau. Au contraire, il est venu à cause de son amour, à cause de sa compassion, pour soulager et pour partager le fardeau. Écoutons ce que nous dit Ésaïe le prophète, 700 ans avant que les choses se soient produites. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. C'est ce chemin-là qu'il a choisi. C'est ce chemin qu'il a choisi pour offrir le salut à l'humanité perdue. Cette humanité, mes chers amis, que Dieu aime passionnément. Dieu aime le monde, car il a donné son Fils unique pour le monde. Et c'est un accord complet, un accord total avec le Père que le Fils donne. et qu'il donne libre cours à son amour. Quel exemple voulons-nous de plus que celui de Golgotha, où il est allé jusqu'au bout de cet amour, de cette compassion, de cette miséricorde pour souffrir avec nous. Cette compassion impossible, cet amour incompréhensible, cet amour incompréhensible du Dieu trois fois saint. S'il y a un mystère auquel personne ne peut répondre, c'est pourquoi est-ce que Dieu m'aime ? Moi qui suis si peu aimable. Et c'est ici que se pose pour nous, qui voulons être ses disciples, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez être ses disciples, c'est ici que se pose pour nous la question de savoir si nous suivons son exemple dans ce domaine particulier de la compassion et de la miséricorde. Ici se pose pour nous la question de savoir si nous sommes heureux parce que nous savons ces choses et que nous les mettons en pratique. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a lavé ses pieds à ses disciples, il leur dit « Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis ». Et si je vous ai fait ces choses, c'est pour qu'à votre tour, vous les fassiez. Si je vous ai lavé les pieds, c'est pour qu'à votre tour, vous fassiez cela aussi. Et il termine en disant, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Voilà une béatitude de plus pour Pierre. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors, sommes-nous heureux ? Parce que nous savons ce qu'est la miséricorde. Sommes-nous heureux parce que nous mettons la miséricorde, la compassion de Jésus en pratique. Et Jésus, ici, donne à ses disciples et à nous pareillement une grande leçon. Ce qui lui importe en premier, ce n'est pas la loi. Ce qui lui importe en premier, c'est l'être humain, c'est la personne qui est là devant lui. Ce qui lui importe en premier, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. C'est David qui a faim et qui mange les pains consacrés. C'est ce pauvre handicapé qui va guérir le jour même du sabbat. Pardon. Ce sont ses disciples qui violent le sabbat en arrachant les épis de blé pour apaiser leur faim. Ce qui compte, ce n'est pas la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Habituellement, il y a deux verres là. Excusez-moi. Peut-être qu'ici, vous allez dire que j'enfonce des portes ouvertes. Et nous savons tous très bien que le premier, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton prochain, de toute ton âme, etc. et ton prochain comme toi-même. » Mais justement, ici, chers amis, les mots ne suffisent pas. Nous connaissons tous des personnes, je pense, qui sont dans des situations difficiles, dans des situations de souffrance, avec des problèmes de toutes sortes, de leur faute ou pas, conséquence de leur inconséquence. Quelle est notre réaction à leur égard ? Indifférence ? Jugement ? Ou sollicitude ? Compassion ? Nous ne pouvons pas nier qu'autour de nous, l'immense majorité de nos contemporains vit dans la pauvreté et dans la misère spirituelle, pris dans le tourbillon des vanités du monde. Est-ce que cela nous laisse indifférents ? Ou bien sommes-nous saisis comme Jésus ? Sommes-nous émus de compassion devant cette foule qui est comme un troupeau sans berger ? Lorsqu'il voit cette foule, notre Seigneur est ému de compassion, c'est-à-dire il est touché aux tripes. Est-ce que ce pauvre monde qui meurt sans Dieu nous touche aux tripes ? Il est vrai que lorsque nous lisons les journaux ou entendons les nouvelles à la télé, nous sommes souvent, avec juste raison, parfois saisis de colère, voire d'écœurement, devant la méchanceté, la cupidité, l'orgueil de certains. Il me faut dire ici quelque chose que j'ai beaucoup de mal à pratiquer moi-même. C'est là une difficulté de la prédication. Hein. Parce que ce qu'on prêche, on le prêche souvent pour soi-même. Est-ce que nous restons sur notre colère, sur notre écœurement ? Ou bien est-ce que nous prions pour ces gens ? Est-ce que nous prions pour ces malfaisants ? Est-ce que nous prions pour ces profiteurs ? Pour ces orgueilleux. Hélas, je dois le reconnaître, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ressemble un peu trop souvent à Jonas. Je suis prêt à pleurer parce que mon ricin est en train de mourir, mais je souhaite la destruction de Ninive. Alors que l'Éternel, lui, a eu pitié de ces gens. Il a eu pitié de ces gens dont la méchanceté est montée jusqu'à lui. Ce n'était pas le journal télévisé, là. Hein. Que de fois, chers amis, que de fois je parle et nous parlons de ce monde de pécheurs avec une froide indifférence, en portant sur lui des jugements sévères, au lieu de pleurer sur lui comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Dans ces occasions, je crois qu'il nous manque un cœur charitable, un cœur compatissant, comme celui de notre Maître. Lui, il a eu compassion de nous, alors que nous étions si peu aimables, alors que nous étions encore des pécheurs, comme le dit Paul. Puissions-nous nous sonder ? Puissions-nous demander au Seigneur de nous aider à nous sonder, à nous mesurer, non pas à la mesure des autres, mais à celle de notre Maître. Je pense que si nous faisons honnêtement une telle démarche, il est certain que nous ne pouvons que constater que nous sommes encore bien loin de cet idéal dont nous parlions tout à l'heure et dont nous a parlé Pierre dans le sermon sur la montagne. Cet idéal à atteindre. C'est vrai, le but à atteindre est si haut, si loin, si parfait. Et nous allons nous décourager. Nous allons nous décourager. Et l'accusateur, là, il va nous accabler, il va se régaler. Regarde combien tu es irrémédiablement mauvais. Et ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte nous pousse à nous éloigner du Seigneur. Ne nous est-il pas arrivé de rester plusieurs jours sans oser prier, sans oser ouvrir notre Bible, parce que nous étions convaincus d'avoir péché, d'avoir offensé le Seigneur ? Alors ne donnons pas prise, encore une prise supplémentaire au Seigneur. Ne donnons pas une prise supplémentaire à l'ennemi qui ne demande qu'à nous séparer de notre Maître. C'est son but, nous séparer de notre Maître. Alors, entendons son appel. Nous l'avons lu, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est vrai qu'atteindre l'idéal que nous propose notre maître, c'est quelque chose de tellement exigeant. Venez à moi, apprenez de moi, dit-il. Soyez à mon école. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous avons commencé la lecture de notre texte ce matin à la fin du chapitre 11 de Matthieu. Et nous voyons là le Seigneur nous inviter et inviter ceux qui sont chargés et fatigués, non seulement à se décharger de lui, mais à apprendre de lui, à venir à son école. En d'autres termes, être comme lui, donc. Apprenez de moi car je suis amour. Apprenez de moi car je suis bonté. Apprenez de moi car je suis compassion. Apprenez de moi car je suis miséricorde. Notre texte de Jean 15 nous dit à peu près la même chose. Demeurez en moi. Celui qui demeure en moi portera les fruits en abondance. Que veut-il dire, notre maître ? Sinon que c'est que dans une communion intime et profonde avec lui que nous porterons les fruits que lui seul peut nous donner de porter. En fait, c'est en demeurant uni à lui, que nous aimerons de son amour, que nous serons bons de sa bonté, que nous serons compatissants de sa compassion. Voilà, je termine. Premièrement, dans les évangiles, l'exemple du Seigneur est éclatant. Il ne brandit pas la loi pour accuser ou pour condamner, mais il la met en pratique dans son essence même, l'amour et la miséricorde. C'est ce qu'on appelle la grâce, hein. Deuxièmement, il démontre qu'il est impossible de sauver ceux qui périssent sans prendre part à leurs peines, à leurs problèmes, à leurs soucis. C'est pour cela que Dieu est venu vers les hommes en Jésus-Christ, prendre part à nos peines, à nos soucis, afin de pouvoir nous sauver. Troisièmement, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En conséquence, cherchons donc comme le bien suprême, à nous approcher de lui, à nous attacher encore plus fort à lui. En restant en communion avec lui par le Saint-Esprit, ce sont ses vertus à lui qui se reflèteront dans nos vies. Il nous communique son amour, sa bonté, sa compassion, sa patience. Et c'est ainsi que nous aimerons comme lui, que nous serons miséricordieux, et compatissant comme lui, juste et vrai comme lui, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout l'énoncé des vertus de notre maître. Et ça, c'est ce qui s'appelle la sanctification, tout simplement. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Seigneur, aide-nous, aide-moi à être à ton école. Seigneur, aide-nous, aide-moi à être comme toi. Amen.